Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 28 juin 2021. Il est 19 h. La séance et la constatation du quorum est faite. Donc, en point 2, je demanderai à Nathalie de procéder à l'adoption de l'ordre du jour.
Donc, je propose l'adoption de l'ordre du jour tel qu'elle vous a été présentée.
Merci. Proposé.
Sylvain, oui.
Secondé.
Julie, oui.
Merci. Procès verbal 3.1, celui du 14 juin, Nathalie.
Donc, je propose d'adopter le procès verbal de la séance du 14 juin 2021 comme il a été déposé.
Merci.
Excusez-moi, M. Dalbecq, sur le point précédent, n'a pas pris le vote.
L'ordre du jour?
Ouais. Non, c'est ça, c'était juste proposé, secondé.
Vous avez dit secondé, je ne sais pas pourquoi, là, mais.
L'ordre du jour, j'ai dit proposé. J'ai dit proposé, secondé.
On ne seconde pas, M. Dalbecq, on prend le vote.
Proposé par.
Oui, après ça, on va prendre le vote.
C'est moi qui propose.
OK. Au vote.
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Je reviens à la même affaire, mon dégât.
Parfait.
3.5. 14 juin, vote.
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Merci. 3.2.
Dalbecq.
Oui.
Dalbecq. Vous prendre le vote, Martin n'a pas parlé.
Je vois, là, Martin, j'ai pas. Ah ben, Martin n'a pas parlé.
J'y venais juste un secondaire. Il n'y a pas de secondaire, M. Dalbecq. Il faut prendre un proposable, après ça, on prend le vote. Il faut que tous les conseillers s'expriment. Martin Chabot ne s'est pas exprimé, là.
Alors, là, c'est correct. J'ai dit Martin, oui, pour le second point.
L'adoption du procès-verbal, 14 juin, vote.
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Martin, oui.
3.2, Nathalie.
Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin 2021, comme il a été déposé.
Merci. Vote.
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Martin, oui.
Merci. 4, administration générale, 4.1. Dépôt du rapport financier, Julie Cloutier.
Oui, alors, comme le prévoit l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, je dépose le rapport financier de la ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Ainsi que le rapport du vérificateur externe du cabinet Rémi Chabot de Glenn Thornton. Ça, c'est en nom collectif à responsabilité. Alors, je vous présente une petite présentation préparée par Raymond Chabot, justement. Donc, tout d'abord, je vous présente l'excédent de l'exercice 2020 ou communément appelé le surplus. Je vais vous parler de la colonne administration municipale parce que la deuxième colonne est celle de la régie régionale de gestion de matières résiduelles. Ça doit être consolidé dans nos états financiers. Alors, les revenus de fonctionnement pour l'année 2020 de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier sont de 15 270 748 $. Les charges ou dépenses, 14 913 446 $, pour un excédent selon les principes comptables généralement reconnus au Canada de 357 302. À cela s'ajoutent divers éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, l'amortissement des immobilisations pour 2 846 300, puis pertes sur ces d'immobilisation de 448 665 $, des propriétés destinées à la revente pour 1 408 $, une diminution pour le financement à long terme des activités de fonctionnement de 14 100 $, le remboursement de la dette à long terme qui est considérée comme une dépense aux fins des états financiers municipaux pour 2 263 889 $, diverses affectations également, Donc, 2 628 $ qui ont servi à financer des activités d'investissement. 260 621 $ qui ont servi pour des imprévus ou des nouvelles opportunités au niveau des activités de des dépenses de fonctionnement. L'excédent de fonctionnement non affecté pour 67 984 et des réserves financières et fonds réservés pour 172 977. Excusez, je viens de me rendre compte que j'ai pas, je vous ai pas présenté mon tableau. Donc, c'est la première page du tableau de Raymond Chabot que vous avez dans vos documents du conseil. Donc, le surplus de fonctionnement des frais fiscales pour l'année 2020 est de 1 528 686 $. Si on ajoute le surplus, notre part du surplus de la régie est de 69 146 pour un total consolidé de 1 597 832 $. Je vais laisser passer les graphiques qui parlent d'eux-mêmes, que vous pouvez le constater. Ensuite, je vais vous parler du financement des investissements en cours. C'est qu'on a des projets dont les travaux sont commencés, mais que le financement n'a pas été fait puisqu'on attend généralement soit d'avoir une portion substantielle du projet de fait ou qu'il soit terminé. Donc, au début de l'année 2020, il y avait pour 4 546 867 $ de projets en cours pour lesquels les emprunts n'avaient pas été faits encore. Donc, il fallait s'attendre à avoir des nouveaux emprunts pour cette valeur-là de 4 millions. Au cours de l'année 2020, il y a eu des acquisitions d'immobilisation, des travaux de construction ou des achats pour 5 714 282 $. De ces montants, il y en a plusieurs qui ont été financés. Donc, 1 585 468 $ qui est du revenu d'investissement, qui est soit des contributions de promoteurs ou des subventions des divers gouvernements. Il y a eu des financements à long terme, dans le fond des emprunts, pour 5 305 868 $. Et on a pu bénéficier d'affectations qui venaient des activités de fonctionnement pour 2 628 $. De l'excédent de fonctionnement non affecté, il y en a pour 230 924 $ qui a servi à financer des projets d'investissement. Ensuite, 678 170 $ qui a été financé par des activités de fonctionnement affectées. Donc, en fait, c'est des montants qui avaient été mis de côté pour suite à des ventes de terrain dans le parc industriel qui ont été utilisées pour financer des projets qui étaient situés dans le parc industriel. Ensuite, aussi des revenus, des réserves financières et fonds réservés pour 120 387 $ qui donnent des financements totaux pour l'année 2020 de 7 723 445 $, ce qui fait qu'à la fin de l'année 2020, il reste 2 337 704 $ de dépenses ou de projets d'investissement à financer. Donc, aujourd'hui, vous allez voir qu'on va faire un emprunt d'environ 2 millions de dollars. C'est ce qui est, entre autres, là, des dépenses qui n'étaient pas financées à la fin de l'année précédente. Si on compare par rapport à l'année 2018, qu'à la fin de l'année, il y en avait pour 6 millions et 4 millions à la fin de 2019, le montant est beaucoup moindre à la fin de 2020. On va passer au prochain tableau qui est l'état de la situation financière non consolidée. En fait, c'est le bilan des activités de la ville qui est non consolidé puisqu'il n'inclut pas la régie. Donc, la ville possède des actifs financiers pour 10 448 293 $. Des passifs qui sont principalement les comptes à payer et surtout les dettes pour 41 641 556 $, qui donne une dette nette au niveau comptable de 31 193 263 $, auquel on ajoute des actifs non financiers, qui sont principalement les immobilisations, pour 76 335 735 $, ce qui donne un excédent accumulé de 45 142 472. Cet excédent accumulé-là, auparavant, on appelait ça l'avoir des contribuables, qu'on peut détailler comme suit. Donc, l'avoir des contribuables se compose d'excédents de fonctionnement non affectés pour 1 301 $, d'excédents de fonctionnement affectés à divers fins pour 1 954 629 $, des réserves financières et fonds réservés pour 336 455 $, des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir pour 568 200 $. Ça, c'est principalement des emprunts pour des fins de fonctionnement. Le financement des investissements en cours que je vous ai présenté au tableau précédent pour 2 337 704 $, et les investissements nets dans les immobilisations et autres actifs. En fait, c'est la valeur nette de nos immobilisations auxquelles on enlève les dettes. Là, si on voulait vendre nos immobilisations demain, on paierait les dettes. Ce qui nous resterait, ça serait 44 754 191 $. Ce qui, dans le fond, c'est ce qui compose là, notre 45 millions d'excédents accumulés. Cet excédent-là était de 37 millions en 2018, 43 millions en 2019, et maintenant on est rendu à 45 millions. Donc, l'excédent augmente. Si vous voulez avoir des contribuables, augmente chaque année. Ensuite, vous allez pouvoir voir divers graphiques qui détaillent de quoi est composé les divers postes du bilan, que je vais vous laisser regarder par vous-même. Et je vais vous présenter un dernier tableau qui est l'endettement total net à long terme. C'est un indicateur qui est très important en comptabilité municipale, puisqu'il nous donne la vraie situation de l'endettement d'une ville. Donc, ça se compose d'abord des dettes à long terme, du montant des dettes à long terme de 36 625 365 $. À cela, on ajoute les activités d'investissement à financer, parce que des emprunts devront être faits dans les prochaines années pour couvrir ces dépenses d'investissement. Donc, 2 337 704 $. Ensuite, il y a des sommes qu'on va recevoir des divers gouvernements et aussi des autres villes avec qui on a des ententes intermunicipales. Donc, c'est pas des dettes qui vont être à la charge des citoyens de la ville de Sainte-Catherine. Donc, pour 5 431 494 $, ces sommes-là vont être remboursé sur le service de la dette, mais pas par les citoyens. Ensuite, on doit ajouter aussi la quote-part dans l'endettement de divers organismes, comme les organismes contrôlés. Pour nous, c'est la Régie régionale de gestion de matières résiduelles pour 996 815 $. C'est notre pourcentage de participation dans la Régie. Et on ajoute aussi notre part dans l'endettement total net à long terme de la MRC et aussi de la CMQ, la Communauté métropolitaine de Québec, pour 233 958 $, ce qui donne au 31 décembre 2020 un endettement total net à long terme de 34 762 348 $. On peut constater que l'endettement total net à long terme était de 29 millions en 2018, 34 031 781 $ au 31 décembre 2019 et 34 762 348 $ au 31 décembre 2020. Donc, l'augmentation est somme toute quand même faible sur l'endettement total net à long terme si on tient compte que si on revient à la première ligne, que les dettes, la dette brute, les dettes réellement empruntées ont augmenté de 4 millions de dollars. C'est qu'au niveau des projets, il y en a moins à financer dans les prochaines années. Donc, l'endettement total net à long terme a été somme toute stabilisé. Je vais vous présenter également le ratio que l'on peut établir à partir justement de l'endettement total net à long terme qu'on vient diviser par la richesse foncière uniformisée que l'on retrouve sur le site du ministère des Affaires municipales. Pour l'année 2020, le pourcentage d'endettement total net à long terme sur la richesse foncière uniformisée est de 3,52 %, qui est en diminution par rapport au pourcentage de 3,61 % de l'année 2019. Et c'est ce qui met fin à une croissance dans les dernières années du pourcentage d'endettement. Donc, on peut dire que la situation là, de l'endettement est somme toute stabilisée et même un petit peu en décroissance. Donc, cet endettement-là prouve que la ville ne s'endette pas plus rapidement que l'augmentation de la richesse foncière uniformisée, ce qui était un objectif du conseil. Donc, ça terminerait ma présentation du rapport financier 2020.
Votre micro fermé, M. Max.
Merci beaucoup, Julie. Donc, 4.2, lecture de certificat, Mélanie.
Oui, certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue entre le 3 et le 17 juin 2021. Règlement numéro 1546-2021 abrogeant le règlement numéro 1237-2013 décrétant une dépense et un emprunt de 39 500 $ pour l'aménagement d'un puits d'approvisionnement en eau potable à des fins d'arrosage au parc du Grand Héron. Je, sous-signée, greffière adjointe par intérim de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1546-2021 est de 5 696, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 581, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare que le règlement 1546-2021 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter.
Merci, Mélanie. 4.3, demande d'officialisation, Nathalie.
Mélanie, il faudra remettre les documents en partage.
C'est pas grave, je vais aller chercher l'autre côté, Marcel, pour l'instant.
Ça s'en vient, c'est rendu.
Ah, OK, c'est bon. Excusez. Donc, c'est une demande d'officialisation de la commission de toponymie. Attendu que 5 rues de nouveau développement résidentiel voisin Natura doivent être nommées. Attendu que les noms de rues choisies font référence à des résidents décédés et qui ont été grandement impliqués à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ainsi qu'à la présence d'une tourbière de grande qualité située au sud du développement. Attendu qu'un avis préliminaire de la commission de toponymie a été reçu. Attendu la recommandation du comité interne de la ville, je propose de nommer les rues du développement résidentiel Boisé Natura par les noms suivants. Rue de la Tourbière, rue Ghislaine Lavoie, rue Robert Plante, rue Guy Linteau et rue Aimé Robitaille. Également de demander à la commission de toponymie d'officialiser ces noms de rues pour le développement résidentiel du Boisé Natura.
Avant qu'on passe au vote, je voudrais vous demander réellement dans ce cas-là de garder ça très, très, très secret pour l'instant parce que demain, on voudrait réellement parler aux personnes concernées des familles pour leur laisser savoir vers où on va et s'ils acceptent effectivement que ça soit fait. Donc, je pense que c'est une question de respect pour eux autres. Correct pour tout le monde?
Oui, M. Bert.
Merci. Donc, vote.
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Martin, oui.
Merci. 4.4, amendement de résolution, Martin.
Oui, ça concerne justement la résolution numéro 188-2021, achat et installation de mobilier pour commis à la taxation et au compte payable. attendu la résolution numéro 188-2021, adoptée à la séance du 10 mai 2021 concernant le projet achat et installation de mobilier pour commis à la taxation et au compte payable, attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 188-2021 puisque le prix pour l'achat et l'installation du mobilier est conforme à la soumission et qu'il s'agit d'une erreur quant à l'application des taxes sur le montant. Attendu le rapport de Mme la greffière adjointe par intérim Mélanie Côté en date du 11 juin 2021, je propose d'amender la résolution numéro 188-2021 afin d'indiquer que le montant de la dépense est de 3 150 $ plus taxes.
Merci. Vote.
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Nathalie, oui.
Merci. 4.5, résolution de concordance, Martin.
Oui, alors, soutenez, ça concerne les résolutions de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 7 105 000 $ qui sera réalisé le 9 juillet 2021. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et les montants indiqués en garde de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 7 065 000 $ qui sera réalisé le 9 juillet 2021, réparti comme suit. 12 58 2016 7 400. Attends, OK. Ensuite, 13 115 2017 4600. 13 94 2017 8500. 14 24 2018 8421. 14 28 2018 271 300. 14-29-2018-9400, 14-32-2018-92 600, 14-60-2019-397 200, 14-103-2019-114 300, 14-104-2019-32 700, 14-105-2019-2800, 14-109-2019-280 000. Ensuite, 14-110-2019-182 000 $, 14-88-2019-360 800, 14-92-2019-132 600, 14-93-2019-164 500, 14-96-2020-217 700 000, 15-02-2020-84 900, 14-04-2020-56 400, 15-07-2020-84 700, 15-08-2020-305 700, 15-12-2020-90 800 et 14-60-2019-14 679. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que conformément à l'alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux ALRQ, chapitre D7, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro 1008-2009-11-04-2010-11-24-2010-10-92-2009-11-23-2010-11-00-2009, 11-23-2010-11-04-2010-11-07-2015, 12-88-2016-13-16-2015, 13-58-16-13-16-2017, 13-84-2019-11-23-2010-11-04-2010-11-07-2020, 15-02-2020, 15-04-2020, 15-02-2020. La Ville de la 7e de la Jacques-Cartier souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ses règlements. Alors, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 9 juillet 2021. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 9 janvier et le 9 juillet de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rattachables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux ALRQ, chapitre D7. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation CSD incorporé, CDS incorporé, et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent ou détenteur d'obligations, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le conseil autorise le ou la secrétaire trésorière ou trésorière à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. 7. CDS effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. CPD, donc c'est Caisse populaire des jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, 225 avenue Saint-Maxime, Saint-Raymond-Québec, G3L3W2. 8. Que les obligations soient signées par le ou la maire, le maire et la secrétaire trésorière ou trésorier trésorière de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, tel que permis par la loi. Amender CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivant, les termes prévus dans les règlements d'emprunt numéro. Est-ce que je dois renommer tous les numéros ou c'est les mêmes qu'on vient de nommer plus haut, Marcel?
C'est les mêmes.
Alors, c'est les mêmes numéros que j'ai énumérés plus haut. Alors, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 9 juillet 2021, au lieu des termes prescrits par l'édit d'amortissement, chaque émission subséquente devra être pour le seul ou en partie du solde du l'emprunt.
Merci. Vote.
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Nathalie, oui.
Merci. 4.6, résolution. Martin?
Oui, alors je t'amène à consommer l'adjudication d'une émission d'obligation de solde. Attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 1008-2009, 1104-2010, 1138-2010, 1124-2010, 1040-2008, 1093-2009, 1092-2009, 1112-2010, 1123-2010, 931-2004, 899-2003, 1100-2009, 1158-2011, 1223-2013, 1249-2014, 1250-2014, 1205-2014, 1216-2015, 1282-2015, 1283-2015, 1297-2015, 1307-2016, 1217-2015, 1358-2016, 1375-2017, 1394-2017, 1424-2018, 1428-2018, 1429-2018, 1432-2018, 1460-2019, 1403-2019, 1404-2019, 1405-2019, 1409-2019, 1410-2019, 1488-2019, 1492-2019, 1493-2019, 1496-2020, 1502-2020, 1502-2020, excusez, c'est 1504-2020, c'est 1507-2020, 1508-2020 et 1512-2020. La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a demandé à cet égard par l'entreprise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, les soumissions pour la vente d'une émission d'obligation datée le 9 juin 2021 au montant de $7,065,000, attendu qu'à la suite de l'appel d'offres publiques par la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes, ARLRQ, chapitre C-19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, ARLRQ, chapitre C-27-1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 1. C'est Mobilière Laurentienne Incorporée pour $672,000, un taux de 55%. En 2022, $681,000, 70% 2023, $690,000 pour 95% 2024, $700,000, on dit 95, mais c'est 0,95, puis plus haut c'est 0,110, puis plus haut c'est 0,55. $700,000 pour 1,20% 2025 et 4,322,000 1,4%. 0,0% en 2026. Prix, c'est 99,08835. Coût réel, 1,53238%. Financière Banque nationale incorporée, $672,000 pour 0,50% 2022, $681,000 pour 0,110% en 2023.
Martin, 0,5, 0,7.
OK, excusez-moi, en 2023, puis bien 0,5 en 2022. $190,000 pour 0,95 en 2024 et $700,000, 1,2 en 2025 et $4,322,000 pour 1,4 en 2026. Prix, 98,96 cents, coût réel, 1,55, 8,95%. Et pour ma valeur mobilière Desjardins, $672,000 pour 0,55 en 2022, $681,000 pour 0,7 en 2023 et $690,000 pour 0,9 en 2024 et 700 000 $ pour 1.15 en 2025 et 4 322 000 $ pour 1.3 en 2026. Alors, le prix, c'est 98,58 $. Coût réel, 1,57 $, 215 %. Attendu que les résultats du calcul des coûts réels indiquent que la soumission présentée par la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée est la plus avantageuse. Je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme il l'était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 7 105 000 $ de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier soit adjugée à la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée, que demande soit faite à cette dernière de mandater service de dépôt et de compensation CDS Incorporée, CDS pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le conseil autorise la trésorière ou le trésorier ou trésorière adjointe à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. Que le maire et la trésorière ou la trésorière adjointe soit autorisée à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance.
Merci. Vote.
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Nathalie, oui.
Martin, un merci spécial pour les deux derniers points parce que c'est tout un challenge.
Ah, c'est bien ça.
Ça a bien été. Oui, ça a très bien été. Maintenant, quand tu regardes tout le paquet de chiffres qu'il y a là-dedans, un boîté en arrière de tout, c'est quelque chose. Donc, 4.7, Marcel?
Oui, alors je dépose la liste des engagements financiers préparée par Mme la trésorière Julie Cloutier pour la période se terminant le 23 juin 2021, laquelle comprend 125 commandes au montant de 343 973,94 $.
Merci. 5, aménagement, urbanisme, développement. 5.1, demande de permis, Nathalie.
Donc, c'est une demande de permis de clôture pour le 147-5040 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis de clôture déposée par M. Louis Brault pour le 147-5040 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 144H est assujetti au règlement sur le PIA. Attendu le rapport du conseiller en urbanisme en date du 11 mai 2021 et les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 juin 2021. Attendu que les critères d'analyse au PIA ne sont pas applicables ou rencontrés. Attendu le rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau en date du 11 juin 2021. Je te propose donc de délivrer un permis de clôture à M. Louis Brault pour le 147-5040 route de Fossambeau.
Merci. Vote.
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Martin, oui.
Merci. 5.2, demande de permis, Nathalie.
Donc, cette fois-ci, c'est une demande de permis d'enseigne pour le 54 route de Fossambeau pour Petro-Canada. Attendu la demande de permis d'enseigne commerciale déposée par M. Frédéric Morin de Pose-Image pour la nouvelle station-service Petro-Canada située au 4754 route de Fossambeau. Attendu le rapport du conseiller en urbanisme en date du 12 mai 2021 et les documents fournis par le requérant. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 64C est assujetti au règlement sur les PIA. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 juin 2021. Attendu que les critères d'analyse au PIA ne sont pas applicables ou rencontrés. Attendu le rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau en date du 11 juin 2021. Je propose de délivrer un permis d'enseigne commerciale à M. Frédéric Morin de Pose-Image pour la nouvelle station-service de la bannière Petro-Canada située au 4754 route de Fossambeau.
Merci. Vote.
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Martin, oui.
Merci. 5.3, demande de permis, Nathalie.
Donc, c'est toujours un permis d'enseigne pour le 4455 route de Fossambeau pour le Tim Hortons. Attendu la demande de permis d'enseigne commerciale déposée par M. Daniel Provencher pour le restaurant rapide Tim Hortons situé au 4455 route de Fossambeau. Attendu le rapport du conseiller en urbanisme en date du 27 mai 2021 et les documents fournis par le requérant. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 127M est assujetti au règlement sur le PIA. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 juin 2021. Attendu que les critères d'analyse au PIA ne sont pas applicables ou rencontrés. A entendu le rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau en date du 11 juin 2021. Je propose de délivrer un permis d'enseigne commerciale à M. Daniel Provencher pour le restaurant rapide Tim Horton, situé au 4455 route de Fossambeau.
Merci. Vote.
Sylvain, oui.
Et Julie, oui.
Martin, oui.
5.4, demande de permis, Nathalie.
Donc, c'est une demande de permis d'enseigne et de rénovation de bâtiment principal sans agrandissement au 300-43 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne commercial et de permis de rénovation de bâtiment principal commercial sans agrandissement déposé par M. Pierre Saussure pour le local 300 situé au 4733 route de Fossambeau. Attendu le rapport du conseiller en urbanisme en date du 28 mai 2021 et les documents fournis par le requérant. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 65C est assujetti au règlement sur le PIA. Attendu la recommandation du comité consultatif du BANIS en date du 8 juin 2021. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont non applicables ou rencontrés. Attendu le rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau en date du 8 juin 2021. Je propose de délivrer un permis d'enseigne commerciale et un permis de rénovation du bâtiment principal commercial sans agrandissement à M. Pierre Saussure pour le local 300 situé au 4733 route de Fossambeau.
Merci. Vote.
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Martin, oui.
Merci. 5.5, modification de règlement, Nathalie.
Donc, ça concerne une modification au règlement de zonage numéro 259-2014 concernant un agrandissement de la zone 137C. Attendu la demande de modification du règlement de zonage numéro 1259-2014 déposé par M. Patrick Bragoli afin d'autoriser l'agrandissement de la zone 137C à la même la zone 67H. Attendu que la propriété concernée se retrouve dans la zone 67H et que la fonction principale de cette zone est le groupe d'usage habitation. Attendu qu'afin de permettre la conformité du projet de M. Bragoli, celui-ci devra se prévaloir des classes d'usage CC, commerce et services locaux et régionaux, et ou CE, commerce et services d'hébergement et de restauration du groupe d'usage commerce et services. Attendu que les entrées de services et les accès à la voirie existante permettraient la faisabilité du projet lors de la construction du bâtiment commercial. Attendu qu'une adhésion à la propriété concernée à la zone 137C n'aurait pas d'impact sur l'ensemble du quartier et du territoire, sachant que le terrain est depuis fort longtemps adjacent à la zone commerciale. Attendu que la possibilité d'un tel commerce dans ce secteur permettrait de combler un espace dit vacant depuis plusieurs années et de diversifier l'offre commerciale de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu la recommandation de la commission sur les services techniques en date du 16 juin 2021. Attendu le rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau en date du 21 juin, je propose donc d'entamer la procédure de modification de règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de permettre l'agrandissement de la zone 137C à même la zone 67H, telle que déposée par M. Patrick Bragoli. Également, demande-t-il le service de l'urbanisme pour produire un premier projet de règlement à cet égard.
Merci. Vote.
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Martin, oui.
Merci. 5.6, modification de règlement, Nathalie.
Donc, ça concerne une modification au règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'autoriser l'usage micro-brasserie dans la zone 66C. Règlement de zonage numéro 1259-2014. Attendu la demande de modification du règlement de zonage numéro 1259-2014 déposée par M. Enrico Paradis, afin d'autoriser l'usage micro-brasserie dans la zone 66C, soit plus précisément 4560, route de Fossambeau. Attendu que le projet de micro-brasserie permettra de bonifier l'offre commerciale sur l'artère principale de la route de Fossambeau, tout en permettant de diversifier celle-ci. Attendu que le demandeur s'engage à se conformer aux normes qui sont édictées par le règlement relatif au rejet dans les réseaux d'égouts municipaux numéro 1319-2016. Attendu la recommandation de la Commission sur les services techniques en date du 16 juin 2021. Attendu le rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau en date du 21 juin 2021. Je propose donc d'entamer la procédure de modification du règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'autoriser l'usage microbrassé dans la zone 66C, soit plus précisément au 4560 route de Fossambeau, tel que proposé par M. Enrico Paradis.
Et
demandez-vous le service d'urbanisme pour produire un premier projet de règlement à cet égard. Je suis désolé, monsieur le maire.
Donc, vote, s'il vous plaît.
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Martin, oui.
Merci. 5.7, second règlement, Nathalie.
Donc, ça concerne l'adoption d'un second projet de règlement, règlement au fin de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014, afin d'autoriser les salons de coiffure dans la zone de classe d'usage CA, service associé à l'usage habitation. Attendu qu'un premier projet de règlement numéro APR 237-2021 a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 25 mai 2021. Attendu qu'une consultation écrite a été tenue du 4 au 18 juin 2021 conformément à l'arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, stipulant que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel du conseil municipal est remplacée par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Juste pour mentionner avant de continuer que tout à l'heure, Pascal va vous faire un résumé d'un des commentaires qu'on a reçus par écrit. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 25 mai 2021. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose d'adopter le second projet de règlement aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'autoriser les salons de coiffure dans la classe d'usage CA, service associé à l'usage habitation.
Merci. Vote.
Sylvain, oui.
Il n'y a pas un résumé par M. Bérubé avant le vote, M. Grenier?
Non, c'était l'autre point d'après.
OK. Bon, mais.
C'est ce point-là.
Ben, c'est parce que moi, je vous le connais. Vas-y, résumé, Pascal.
Oui, en fait, la consultation se tenait du 4 au 18 juin concernant le APR 237-2021 qui vise à autoriser les salons de coiffure dans la classe d'usage CA. On a reçu un commentaire. Qui visait surtout là, à se questionner sur le fait qu'on réautorise les salons de coiffure en classe d'usage CA alors que la ville les avait interdits en 2018. On se questionne, on demande à ce que toutes les zones habitation permettent les classes d'usage CA pour une question d'équité. On demande de revoir l'ensemble des usages de commerce et services associés à l'habitation. On demande aussi d'autoriser cette classe d'usage-là uniquement pour les unifamiliales isolées et non pour que ça se retrouve dans les condos ou dans les jumelés, etc., ce qui est déjà le cas. C'est-à-dire, ce qui est déjà le cas, c'est juste les unifamiliales. On demande aussi d'encadrer l'affichage de cette classe-là, ce qui est déjà le cas également. Et on précise que ces commentaires sont uniquement à des fins d'analyse future, que ça ne vise pas à contrecarrer là, ce projet de règlement-là. J'ai parlé avec la personne qui a soumis cette consultation-là, et il y a certains points qui vont être soumis là, pour analyse au comité consultatif d'urbanisme à l'automne, mais le second projet ne fait pas l'objet de contestation nullement.
Merci. Vote.
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Martin, oui.
Merci. 6, une gêne du milieu, 6.1, adoption de règlement. Marcel, résumé.
Oui, alors c'est l'adoption finale du règlement. Il n'y a eu aucune modification entre la version de ce soir et la version précédente qui avait été présentée. Le règlement vise tout simplement à réduire un emprunt qui était prévu à 41 000 $ de le réduire à 33 500 $ puisque des travaux de modification de poste de pompage PPE 1B ne seront pas réalisés.
Merci. Adoption, Sylvain, s'il vous plaît.
Oui, ça concerne l'adoption du règlement décrétant une dépense et un emprunt de 41 000 $ pour les services professionnels en lien avec le réseau d'égouts et les travaux de modification au poste de pompage PPE-1B afin de diminuer la dépense de l'emprunt de 7 500 $ en enlevant la section « Travaux de modification au poste de pompage PPE-1B ». Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'amendement du règlement numéro 1464-2019 afin de diminuer la dépense de l'emprunt de 7 500 $ et en enlevant la section de travaux de modification au poste de pompage PPE-1B. Attendu que les dépenses ont été engagées, sont estimées à 33 500 $ afin de couvrir les services professionnels du projet et les autres frais. Attendu qu'il est nécessaire de modifier l'emprunt de 41 000 $ pour payer le coût du projet, puisque la deuxième partie du règlement, soit travaux de modification au poste de pompage, ne seront pas réalisés. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce conseil tenue le 14 juin 2021. Attendu que le projet de règlement numéro APR-242-2021 a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 juin 2021. Attendu que M. le directeur général et greffier Marcel Grenier a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce conseil adopte le présent règlement.
Merci.
Julie, oui.
Nathalie, oui.
Martin, oui.
Merci. Parc et bâtiments, il n'y avait aucun point. Santé et bien-être, 8, aucun point non plus. Point 9, sécurité publique, 9.1. Marcel, résumé.
Oui, alors c'est la version finale d'un règlement pour remplacer le règlement 1479-2019. Alors, il n'y a eu aucune modification entre le règlement qui va être présenté ce soir et la version projet qui avait été présentée auparavant. Le règlement vise à remplacer le règlement 1479, qui est un règlement qui est uniformisé à travers toutes les municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier pour application par la Sûreté du Québec. C'est un règlement qui vise la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés.
Merci. 9.1. Donc, adoption, Sylvain?
Oui, c'est l'adoption des règlements prévoyant remplacer le règlement numéro 1479-2019 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce conseil tenue le 14 juin 2021. Attendu que le projet de règlement numéro APR-243-2021 a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 juin 2021. Attendu que M. le directeur général et greffier Marcel Grenier a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR et le règlement final. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Je propose que ce conseil adopte le présent règlement intitulé « Règlement prévoyant remplacer le règlement numéro 1479-2019 » sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés.
Merci. Vote.
Julie, oui.
Nathalie, oui.
Martin, oui.
Merci. 10, sport, loisirs, culture, vie communautaire, 10.1. Sylvain.
Oui, ça concerne l'octroi d'un contrat équipement pour le marché public. Attendu que la popularité du marché public ne cesse d'augmenter d'année en année depuis son ouverture, attendu qu'il est donc devenu nécessaire d'ajouter des équipements au site du marché public pour répondre aux besoins croissants des producteurs. Attendu que la résolution numéro 2018-2021, autorisation d'une demande de subvention, programme proximité, autorisait une dépense de 12 600 $ plus taxes représentant la part de la ville dans le projet d'amélioration des installations du marché public et le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme proximité. Attendu qu'une réponse positive à la demande de subvention a été reçue, confirmant une aide financière de 30 667 $ Attendu le rapport 30 867 $ Attendu le rapport du comité de gestion contractuelle. attendu que les règles de gestion contractuelle ont été respectées et permettent l'octroi d'un contrat de gré à gré. Attendu le rapport de Madame la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Landlois, en date du 28 juin 2021. Je propose d'octroyer un contrat au montant de 26 500 $ plus taxes à la compagnie Camp et Chalet, une division de GTEC Immobilier Incorporé, pour la production d'un cabanon. Et également d'octroyer un contrat de 13 500 $ plus taxes à la compagnie Toile Concept Incorporé pour la fourniture de toiles protectrices trois côtés pour la kiosque. De plus, d'augmenter la résolution 2018-2021 afin de corriger le montant de la dépense autorisée à 44 095 $75 avec une appropriation du fonds de roulement de 12 600 plus taxes et une subvention de 30 867 $33. Et finalement, d'imputer la dépense du projet 2021-0218.
Merci. Donc, vote.
Julie, oui.
Nathalie, oui.
Martin, oui.
Merci. 11, transport, 11.1, octroi d'un contrat. Sylvain?
Oui, ça concerne l'octroi d'un contrat, l'acquisition d'une gratte pour chargeur sur roue. Attendu que le service des travaux publics recommande aux membres du conseil de faire l'acquisition d'une gratte qui serait installée sur le nouveau chargeur sur roue. Attendu que l'ajout de cet équipement permettrait l'optimisation des opérations de déneigement. Attendu la soumission reçue de la compagnie Metal Place en date du 31 mai 2021. Attendu que le coût d'acquisition d'équipement est établi à 37 995 $ plus taxes. Attendu le rapport du comité de gestion contractuelle. Attendu la recommandation de la commission sur les services techniques. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 21 juin 2021. Je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Metal Place pour la fourniture d'une gratte à installer sur un chargeur sur roue. Les détails du contrat apparaissent à la soumission transmise par M. Mario Crillon en date du 31 mai 2021. Le coût d'acquisition a été établi à 37 995 $ plus taxes et de plus d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement remboursable sur 10 ans.
Merci. 11.1, vote.
Julie, oui.
Nathalie, oui.
Martin, oui.
Merci. 11.2, paiement numéro 3, Sylvain.
Oui, ça concerne le paiement numéro 3 des honoraires professionnels en ingénierie, projet de développement boisé Natura. Attendu le projet de développement boisé Natura. Attendu que l'entente signée avec développement SCJC incorporé concerne le projet de développement boisé Natura, prévoit un partage des coûts des honoraires professionnels en ingénierie. Attendu que cette dépense a été prévue au règlement numéro 1530-2021 pour le prolongement de l'avenue des Catherines et de la rue Désiré-Junot et au règlement numéro 1533-2021 pour les travaux du projet de développement boisé Natura. Attendu que les plans et devis sont terminés. Attendu que la facture transmise par développement SCJC incorporé en date du 15 juin 2021. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 16 juin 2021, je propose d'autoriser le paiement de la troisième facture et dernière facture d'honoraires professionnels en ingénierie transmise par Développement SCJC Incorporé concernant le projet de développement Boisé Natura. La facture est au montant de 7 981 $42 plus taxes et de plus d'imputer le montant de la dépense de la façon suivante. 3 861,53 $ plus taxes au règlement numéro 1533-2021 et 4119 $89 plus taxes au règlement numéro 1530-2021.
Merci. 11.2, vote.
Julie, oui.
Nathalie, oui.
Martin, oui.
Merci. 11.3, autorisation d'embauche, Sylvain.
Oui, ça concerne l'autorisation d'embauche de mécanicien. Attendu que le poste de mécanicien est à combler. Attendu la tenue d'un concours. Attendu le rapport de M. le directeur adjoint aux travaux publics, Pierre Roy, en date du 18 juin 2021, je propose d'autoriser l'embauche de M. François Savard, au poste régulier de mécanicien. M. Savard est classifié à l'échelon 8 de la grille salariale en vigueur. Ses conditions de travail apparaissent au contrat de travail des employés col bleu. L'employé est assujetti à une période d'essai de 6 mois.
Merci. Vote.
Julie, oui.
Nathalie, oui.
Martin, oui.
Merci. 11.4. Marcel, résumé.
Oui, alors c'est l'adoption finale du règlement. Il va modifier les limites de vitesse sur la rue des Capitaines. Il n'y a eu aucune modification entre le règlement qui est présenté ce soir et la version préliminaire qui avait été présentée antérieurement. Alors, le règlement vise à réduire la vitesse, la limite de vitesse permise sur la rue des Catherines de 50 km/h à 40 km/h.
Merci. Donc, Sylvain, 11.4.
Oui, c'est l'adoption d'un règlement. Abandonnant le règlement numéro 1495-2020 et le règlement 684-1993 concernant les limites de vitesse de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier afin de réduire la limite sur l'avenue de la Catherine. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce conseil tenue le 14 juin 2021, attendu que le projet de règlement numéro APR-244-2021 a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 juin 2021, attendu que monsieur le directeur général et greffier Marcel Grenier a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR et le règlement final, attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités civiles ont été respectées, je propose que ce conseil adopte le présent règlement intitulé « Règlement amendant le règlement numéro 1495-2020 et le règlement numéro 684-1993 concernant les limites de vitesse de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier afin de réduire la limite sur l'avenue de Catherine. »
Merci. Vote.
Julie, oui.
Nathalie, oui.
Martin, oui.
Merci. 11.5, demande au ministère des Transports. Sylvain?
Oui, c'est une demande au ministère des Transports du Québec. Réduction de la limite de vitesse sur une section de la route Fossambeau. Attendu que la route Fossambeau, route 367, est une route provinciale sous la juridiction du ministère des Transports du Québec, attendu que la vitesse affichée sur la route de Fossambeau pour traverser l'agglomération de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier est de 50 km/h. Attendu qu'une zone de transition est affichée à 70 km/h près de la rue des Buissons. Attendu que la longueur de cette zone de transition n'est pas suffisante. Attendu que le débit de circulation à cet endroit est très élevé et que des véhicules y circulent à grande vitesse. Attendu la présence plus au sud de la route des Érables est une artère collectrice qui relie la ville de Québec, arrondissement Val-Balaire, et qu'on y retrouve un débit de circulation élevé et un nombre important de véhicules lourds. Attendu que les véhicules automobiles, particulièrement les véhicules lourds provenant de la route des Érables, ont de la difficulté à s'insérer sur la route provinciale de façon sécuritaire. Attendu le nombre d'accidents à l'intersection de la route Fossambeau et de la route des Érables. Attendu que le conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier est d'avis que la zone de transition affichée à 70 km/h sur la route Fossambeau devrait être étendue. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 22 juin 2021, je propose de demander au ministère des Transports du Québec de réduire à 70 km/h la limite de vitesse sur la section de la route Fossambeau, comprise entre la route des Buissons et la route des Érables.
Avant qu'on procède au vote, dans le 1, 2, 3, 4, le cinquième attendu avant le dernier, on aurait dû lire la route principale et non pas la route provinciale, plus technique. 11.5, vote.
Julie, oui.
Nathalie, oui.
Martin, oui.
Merci. Autre sujet, il n'y en avait pas. Période de questions, Marcel?
On n'a reçu aucune question à 7 heures ce soir.
Merci beaucoup. Donc, sur ce, je procède au point 14. Nathalie?
Donc, je propose la clôture de la séance du 28 juin 2021. La Chambre est levée à 20h04.
Merci beaucoup. 14 votes?
Sylvain, oui.
Julie, oui.
Martin, oui.
Merci beaucoup à tout le monde pour cette réunion de séance de conseil. Chez les amateurs de hockey, je vous souhaite une bonne game. Ceux qui veulent gagner, je vous souhaite de gagner. Ceux qui ne veulent pas gagner, vous ferez d'autres choses. Je vous souhaite de vous remercier encore énormément.
Bonne soirée tout le monde.
Bonne soirée, Marc.